Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. On l'a tout devant derrière. Tout à fait, on l'a tout devant derrière.
Ok.
Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Pays d'Enrot et RPH Sud. Dans ma chronique précédente, je vous avais parlé de notre traversée de la mer de Ross jusqu'à la grande barrière de glace par 77-30 de latitude sud, le point le plus extrême vers le sud de notre mission. Aujourd'hui, nous atterrissons sur l'île de Ross, située à l'extrémité de cette barrière, dans le coin sud-ouest de la mer de Ross. C'est une île impressionnante, où culmine notamment à 3800 mètres d'altitude un volcan en activité, l'Erebus. Et cette île est aussi peuplée d'énormes colonies de manchots, les colonies les plus australes en Antarctique. Yves, notre ornithologue à bord, spécialiste de la faune australe, va maintenant nous en parler.
Alors Yves David, 45 ans fraîchement fêté à bord. Mon métier en Bretagne, notamment ornithologue naturaliste au sein d'une association de protection de la nature, donc au sein d'une réserve naturelle précisément, où là, les missions consistent principalement à effectuer des inventaires naturalistes, de la faune sauvage en particulier, et notamment des oiseaux, qui est ma passion depuis de nombreuses années. Alors j'ai eu aussi la chance de partir dans les terres australes, les fameuses terres australes et antarctiques françaises, il y a quelques années, bon, une bonne dizaine d'années maintenant, puisque pour un ornithologue, ces territoires un peu lointains et mythiques sont un peu le rêve pour l'observation de ces espèces emblématiques que sont les albatros, les pétrels en tout genre, etc. Donc fin 2013, je vais embarquer sur le Marion Dufresne à partir de La Réunion pour gagner l'archipel des Kerguelen et donc y passer plus de 13 mois pour le compte de la réserve naturelle des terres australes françaises où là j'étais technicien ornithologue. Mes missions principales étaient le suivi des populations d'oiseaux marins et également mammifères marins. Donc voilà, on a passé beaucoup de temps sur le terrain, énormément de temps sur le terrain, été comme hiver, par tous les temps, par toutes les météos possibles là-bas, donc à compter, observer, recenser et équiper des espèces également, des albatros, des metteurs satellites pour connaître leur déplacement en mer.
Bon Yves, et maintenant à bord de Persévérance, qu'est-ce que tu fais ?
Ma place ici à bord de Persévérance, c'est encore une fois le biologiste du bord. Moi j'observe, je passe beaucoup de temps sur le pont, aux passerelles, avec mes jumelles, mon appareil photo pour enregistrer, noter toutes ces observations de faune sauvage, principalement oiseaux et mammifères marins. Concrètement, toutes les heures, j'effectue un relevé sur le pont qui permet d'identifier et de comptabiliser l'ensemble des oiseaux là, croisés au cours de notre navigation. Toutes ces données sont saisies ensuite sur une base de données collective pour fournir et améliorer surtout la connaissance de répartition de ces espèces dans l'Austral et ici en Antarctique, au sein de l'AMP surtout. Et donc en parallèle également, on va recenser des manchotières que l'on va également visiter tout au long de notre trajet là, dans la deuxième partie plutôt de la mission sur la côte ouest de la mer de Ross jusqu'à l'archipel de Baleine. On va recenser ces colonies par drone de manière à avoir des données plus récentes que précédemment.
Là, donc, il y a une partie donc observation des animaux en mer. C'est ce qu'on a fait pendant la traversée. Maintenant, donc, tu dis de l'inventaire de colonies, alors des colonies de manchots à terre, parce que cette région est une aire marine protégée. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça, ce qu'on appelle AMP Air Marine Protégée. Depuis, en effet, 2016, plus d'1,5 million de kilomètres carrés aujourd'hui, l'intégralité de la mer de Ross, finalement, plus quelques territoires au nord-ouest, sont classés Air Marine Protégée. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, simplement, dans la grande majorité de la mer de Ross, aujourd'hui, la pêche est interdite. Il y a des 2-3 zones où elle est réglementée ou soumise à une réglementation stricte, avec des quotas, etc. Donc aujourd'hui, voilà, la mer de Ross est un sanctuaire de biodiversité grâce à ce classement qui a néanmoins une durée de vie de 35 ans. Donc au bout de 35 ans, voilà, il y aura un bilan d'effectuer. Mais avant ces 35 ans, aujourd'hui, on est à environ 10 ans déjà de vie de cette AMP. Et donc là, l'objectif de réaliser comme un état des lieux, un état intermédiaire de vie de cette réserve pour connaître déjà les premiers résultats, les premiers effets de ce classement sur la biodiversité. Donc on est là pour recueillir toutes les données, qu'elles soient biologiques, physiques, chimiques. Moi, en l'occurrence, je prends le pouls un peu de la biodiversité, de ce que je peux voir et observer dans cette AMP, notamment autour des manchots, quoi.
Et donc là, on vient d'arriver sur l'île de Ross. Donc c'est une île vraiment au coin en bas à gauche de la mer de Ross. C'est vraiment un des coins très très reculés. On a débarqué hier sur une énorme colonie de manchots. Donc décris-nous un peu ce que tu as vu.
En effet, une grosse colonie de manchots Adélie, principalement. Le manchot Adélie, ici, se reproduit depuis des dizaines d'années. Il existe également une autre colonie de manchots, pour le coup, le manchot empereur, qui, lui, actuellement, à l'heure de l'été austral, là, n'est pas encore en reproduction. Lui, niche en face, là, sur l'ice shelf, sur la glace, alors que le manchot Adélie, lui, se reproduit sur les pentes là, du mont Terror, là, sur les scories et le basalte. Cette colonie est majeure, elle est extraordinaire. On compte environ en moyenne 270 000 couples, voire 300 000 couples certaines années là dernièrement. Et donc une colonie en augmentation. La tendance globale de cette colonie est pour le manchot Adélie, qui aujourd'hui n'est pas menacé. Néanmoins, voilà, on observe des fluctuations d'effectifs de cette colonie. Et donc en effet, elle est imposante, clairement, là, de voir tous ces manchots grouiller, vivre sur ces pans de montagne là. Donc depuis quelques années également, cette colonie est suivie par une équipe de scientifiques américains. Grande Ballard et Annie Schmidt, là, qui viennent depuis des années, précisément une petite trentaine d'années. Assez extraordinaire de venir chaque année, l'été, de novembre à février, là, pour étudier chaque jour cette colonie. Alors, comment on l'étudie? Il y a avant tout le recensement. Il y a aussi une technique habituelle de suivi d'une espèce aujourd'hui. C'est le bagage, c'est la pose d'émetteurs pour connaître leur déplacement. Des petites puces aussi également qu'on leur pose pour connaître le temps de déplacement en mer, le temps d'alimentation en mer, le temps de passer sur la colonie, etc. Il y a tout un tas de méthodes pour les suivre et que mettre en place là, cette équipe qui vient chaque année.
Alors ils sont venus à bord, hein, ils sont venus nous voir, on a déjeuné ensemble et après on a débarqué, on a été les voir sur leur camp, alors notamment dans la hutte qui a plus de 30 ans, c'est assez impressionnant, quoi.
Grant et Annie sont des passionnés de cette espèce à venir chaque année comme ça, dans des conditions un peu particulières. On imagine que là, certes, on est l'été, mais bon, il peut faire frisquer surtout la nuit avec des bons coups de vent parfois, on imagine.
Et donc, dans la région, là, alors déjà pendant la traversée, et puis après le long des falaises de glace et autour de l'île Ross, qu'est-ce qu'on voit comme autre espèce à part ces manchots?
Depuis notre départ là de Littleton en Nouvelle-Zélande, on a eu la chance d'observer un peu tout le cortège d'oiseaux marins du subantarctique avec les principales familles représentées ici, hein, que sont les albatros et la grande famille dite des pétrels. Alors ça regroupe beaucoup d'oiseaux, mais les principales espèces les plus communes qu'on a pu observer devant et derrière le bateau, c'est beaucoup le pétrel à menton blanc. Ça, c'est un oiseau assez commun sous ces latitudes. Le pétrel à tête blanche, le puffin fuligineux, gros passage de puffin fuligineux, là, c'est l'oiseau marin, l'un des plus communs du monde, qu'on peut voir à peu près, pas dans toutes les mers, mais quasi. Puis des plus petites espèces, hein, avec les prions, et puis encore la plus petite espèce, là, c'est assez étonnant, c'est ces fameuses océanites de Wilson, océanites à ventre blanc, et j'en passe. C'est des petits oiseaux, hein, on a du mal à comprendre comment ils puissent survivre dans ces conditions, hein, face aux à la houle, au vent et à l'inverse de neige et de grêle et autres, dans ces conditions très extrêmes finalement. Et ce petit oiseau fait aux alentours de 40 cm d'envergure, il est pas bien lourd, et puis on le voit voler comme ça, volter entre les moutons et les vagues. C'est assez impressionnant comme capacité d'adaptation. Et puis pour revenir sur les albatros, voilà, c'est la famille mythique, hein, que tout le monde aime. On y trouve les albatros timides, les albatros fuligineux, évidemment le sourcil noir assez commun, et puis le fameux grand albatros, en passant par l'albatros royal également. Donc voilà, ce fameux albatros royal et grand albatros qui tourne autour de 3 mètres, 3 mètres 50 d'envergure. Voilà, c'est une bête de l'adaptation aussi, avec cette planée en continu. Voilà, on a l'impression qu'il dépense zéro énergie alors qu'il est face à 50 nœuds de vent, et il bouge pas, constant, un vrai miracle.
Et dans les gros prédateurs, donc il y a le pétrel géant et le skua. On en a vu pas mal, hein.
En effet, dans la traversée, on a vu quelques pétrels géants, et oui, surtout ici, proche là des terres de l'Antarctique évidemment, et des îles comme Ross Island. Le skua antarctique, c'est l'oiseau assez commun après les manchots. L'Antarctique, lui, alors, il a une particularité d'être le charognard du secteur, avec son appétence très très forte aux manchots et aux poussins et aux œufs. Donc lui niche très concrètement à proximité des manchots. Pour lui, c'est son garde-manger. Il est tous les jours dans la manchotière à grappiller un œuf, un manchot, un poussin, et à essayer de voir lequel est plus faible que l'autre. Et puis voilà, il n'hésite pas un peu à attaquer, à taquiner, jusqu'à les pousser dans l'eau. Voilà, c'est un spectacle, c'est particulier, mais bon, c'est la nature, l'état sauvage qu'on peut admirer ici.
Oui, exactement. On a un grand privilège d'être venu sur ce coin-là, le Cap Crozier, parce que c'est une zone hyper protégée, personne n'y vient. Nous, on avait l'autorisation, en gros grâce à toi, hein. C'est rare de voir des spectacles comme ça.
Merci Yves pour ces témoignages très détaillés sur la faune qui nous entoure. Mais nous avons oublié de décrire le manchot Adélie. Donc, si tu m'y autorises, Yves, je vais le faire. Alors, cette charmante petite bête est un oiseau qui ne vole pas dans l'air, contrairement au pingouin de l'Arctique qui, lui, vole. Il mesure environ 75 cm debout sur ses pattes palmées. Un adulte pèse entre 5 et 6 kg et porte un beau smoking noir et blanc. À terre, il gambade joyeusement tout en se dandinant, et sous l'eau, il se déplace en volant avec ses petites ailes pour se nourrir de krill, ce petit crustacé caractéristique des eaux antarctiques qui est menacé par la surpêche industrielle, alors qu'il nourrit, outre les manchots, de nombreuses espèces de phoques et de baleines. D'où l'importance des aires marines protégées. Nous allons naviguer pendant plusieurs jours encore autour de l'île de Ross, pour continuer l'inventaire de sa faune, et aussi visiter plusieurs sites historiques, car au début du XXe siècle, cette île a servi de base de départ à de nombreuses expéditions vers le pôle sud. Donc, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine chronique.